D'ouvrir avec moi, si je vous le dis, pour Romain. Et on va continuer ensemble dans cette deuxième partie de réunion. Votre étude de cette épître. C'est la première d'une longue série. Paul a écrit. Nous étudions les épîtres que Paul a écrit aux églises. Là, nous avons commencé il y a deux parties par l'épître aux Romains et nous avons déjà abordé deux points fondamentaux dans cette épître. Ce qui est bien en été, c'est que, comme il fait lourd de plus en plus tard, c'est bien. Agréable. Bon, voilà, comme ça, j'éteins, vous avez un peu plus de contraste. On a déjà abordé deux points fondamentaux. Tout d'abord, cette question de la justice et du justification par la foi, c'est-à-dire cette justice, cet état, cette condition trouvée, acceptée de Dieu. Paul démontre, ce sont les chapitres 1 à 3, 2, même le troisième, on en a parlé, l'état de péché, l'universalité du péché, la condamnation de toute l'humanité. Il faut que chaque homme, quel que soit son arrière-plan religieux ou autre sur cette terre, réalise sa condition, son état, son incapacité à être sauvé. Paul insiste ensuite sur le fait que le seul juste, c'est-à-dire le seul qui soit agréé de Dieu, le seul qui soit accepté de Dieu, qui plaise à Dieu, c'est Jésus-Christ le juste. Il offre le salut gratuitement à tous et c'est lui, évidemment, la victime, dit Paul, la victime propitiatoire, c'est lui qui rend propice, je l'avais mis ici, on l'avait vu, c'est lui qui, par son sacrifice, satisfait la sainteté de Dieu. Il accomplit la loi parfaite de Dieu pour nous. Il apaise la colère de Dieu. Et puis, l'apôtre Paul conclut la première partie de son épître en Romains 5 en démontrant la supériorité du don gratuit pour la justification avec ses bénéfices, notamment ce bénéfice de paix dans nos cœurs, cette assurance dans nos âmes. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Justifiés par son sang, nous sommes sauvés de la colère, réconciliés avec Dieu le Père. Et puis nous avons vu, évidemment, dans un deuxième temps, que la grâce que le Seigneur manifeste, le fait que Jésus soit le seul juste et qu'il est accompli pour nous, évidemment, la grâce n'est absolument pas prétexte à péché. On en relira encore un petit bout ce soir dans Romains 6. Mais c'est une question qui surgit régulièrement. Et que devient la loi? Que deviennent mes efforts? Que devient ma participation en réalité? Puisque je suis régulièrement dans ma marche chrétienne, je suis confronté pas seulement à des tentations. La tentation, ce n'est pas du péché, bien sûr. Hein, tout le monde est tenté, c'est normal. Jésus lui-même a été tenté, comme nous en toutes choses. Mais je constate dans ma vie combien de moments où je me suis obligé de résister au péché. Et il y a des moments où je fais un effort pour résister à la colère. Et puis en même temps, ça craque parce que ah, je dis, ah, c'est plus fort que moi. Non, on va voir ce soir, c'est faux, c'est pas plus fort que moi. Il y a des choses que nous devons comprendre. Alors, combien d'enfants de Dieu, plein de bonne volonté, vont essayer de faire un travail sur eux-mêmes, essayer de se tenir, de se canaliser, d'amener des règles, des obligations, des interdits et toutes sortes de choses pour essayer de vaincre leur fichu caractère, pardonnez-moi l'expression, essayer de vaincre le péché et de vivre, parce qu'on est sincère, une vie chrétienne digne de ce nom, parce qu'on veut vraiment plaire au Seigneur. Seulement, le constat est là, les échecs sont là. L'apôtre Paul est clair, si c'est une évidence, il n'y a pas de salut dans la loi, il n'y aura pas non plus de vie, il n'y aura pas de victoire, il n'y aura pas de progrès, il n'y aura pas d'épanouissement de vie dans nos efforts personnels, vains, charnels, pardon, même prétentieux. L'apôtre Paul insiste clairement, il y a toute une partie de l'épître aux Romains, c'était notre deuxième point, il faut absolument être libéré, non seulement de la loi de Dieu, mais aussi de nos lois. De notre travail sur nous-mêmes. Alors l'apôtre Paul va mettre clairement en évidence la vocation, mais surtout les limites de la loi. Et c'est tout le sens de Romains 7 en vérité. Paul confirme la loi. Jésus dit, je suis venu accomplir la loi, pas l'abolir. Là, l'apôtre Paul le confirme. Évidemment, il montre sa vocation. Elle définit le péché, elle le débusque, elle le rend évident, elle l'impute, elle le compte, elle le sanctionne, etc. Et il va montrer aussi les limites de la loi. Et la loi, en réalité, je dois le comprendre, est réellement incapable de me changer. Elle me laisse sans force. C'est l'expression la plus pure, la plus parfaite de la sainteté de Dieu. C'est la norme parfaite, l'expression de sa sainteté, de sa santé spirituelle et morale, de sa perfection absolue. Elle me révèle qui est Dieu, elle me dit aussi qui je suis, elle me révèle mon incapacité, mais la loi n'a pas vocation, n'a jamais eu vocation à changer qui que ce soit. Elle me laisse sans force. Et en plus de cela, comme si ce n'était pas suffisant, non seulement elle ne détruit pas le péché, mais Paul est extrêmement clair, la loi excite le péché. 1 Corinthiens 15, la puissance du péché, c'est la loi. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous sommes dégagés de la loi, nous sommes morts à cette loi, Christ est la fin et l'aboutissement de la loi. Et aux Galates, la loi est un pédagogue, c'était une pédagogie de Dieu pour nous conduire à Christ. Ce soir, on va considérer une autre vérité. C'est la troisième vérité fondamentale de l'épître aux Romains, à savoir que nous sommes libérés de la puissance du péché. Et on va reprendre ensemble, pardon, là où nous nous en étions arrêtés la semaine dernière, Romains chapitre 6. Et on va lire les versets que je vous ai mis ici. Dans les chapitres 6, 7 et 8, l'apôtre Paul est en train de parler de la loi, de la liberté du péché. Il va entamer aussi la question de la consécration, de la soumission totale à Christ, etc. Mais on voit ça au fur et à mesure. Et là, on est toujours dans les chapitres entre 6 et 8. Chapitre 6, verset 1er, que dirons-nous donc? Allons-nous demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Et certainement pas. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Le but est clair. À un autre moment, l'apôtre Paul dit, afin que nous arrivions à la sainteté, afin que nous marquions ici en nouveauté de vie. L'objectif est clair, personne ne peut se conforter dans le péché. En effet, si nous sommes devenus, par identification spirituelle, on va insister ce soir, une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme, c'est une expression pour désigner notre vieille nature, notre nature charnelle, peu importe l'expression qu'il emploie ça et là, notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort, pas physiquement, hein, il parle à des vivants, il écrit à des vivants. Celui qui est mort à lui-même, celui qui a compris la portée de son baptême par immersion, qui a compris la portée de son identification à Christ, celui qui est mort à lui-même est libre, pas sera libre, il est libre du péché. Amen. Au verset 14, on est toujours dans Romains 6, verset 14. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, n'aura point de pouvoir sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Verset 18. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Ça, j'en parlerai un petit peu plus la semaine prochaine, en montrant que là, il est question de la soumission volontaire à Christ. Paul précise qu'il parle à la manière humaine et il sait où il veut emmener ses auditeurs, mais je ne m'étends pas là-dessus ce soir. J'insiste sur, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Verset 22. Maintenant, étant affranchi, du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et puis, on va prendre aussi au chapitre 8, les versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Elle m'a affranchi. C'est fait de la loi, du péché et de la mort. Amen. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que chapitre 7, il donne cette image, souvenez-vous, pour un petit résumé, de la loi qui est un peu, qui est comme un mari, comme un conjoint, qui est comme un mari qui, malheureusement, oui, qui est certes parfait, qui a des normes excellentes, des exigences nobles, mais un mari qui ne vous aime pas, un mari qui est inaccessible, il a mis la barre trop haut, le niveau est trop élevé, et en plus il est froid, il est dur, il est figé dans le marbre, et il est toujours en train de vous accuser. Et le truc, c'est que chaque fois qu'on vous accuse, c'est qu'il a vraiment raison à chaque fois. Et c'est ce que fait la loi. Et ce mari, cette loi, je suis sous la garde de la loi, je suis emprisonné dans la loi, je suis marié à ce mari qui, en réalité, ne m'aime pas et qui, en plus, est totalement impotent, ne peut, d'abord, il ne peut pas, c'est pas sa vocation, mais même s'il le voulait, ne peut pas lever le petit doigt pour moi, ne peut pas amener le moindre changement, ne me secourra jamais. Et en plus, on avait terminé ça avec ça en disant, et en plus, ce mari, il est immortel. On ne pourra jamais s'en débarrasser. Donc, quelle est la solution? C'est ce que nous avons lu dans Romains 6. La solution, c'est l'identification spirituelle à Christ. Ce n'est pas la loi qui meurt, c'est moi. Et étant né de nouveau, étant né à une vie nouvelle, entraîné par Christ dans sa mort et sa résurrection pour une nouvelle vie, une nouvelle naissance, avec un nouveau mari, une fois que c'est fait, l'apôtre Paul peut dire « Gloire soit rendue à Dieu, il y a maintenant que je suis dégagé de la loi et que je suis marié à son nouvel époux qui est Christ, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ, vivant dans le Christ Jésus. » Et là, j'entre non plus dans une vie d'obligation, j'entre dans une vie de relation. J'entre dans une vie de communion, koinonia en grec, communion qui signifie aussi communication, communion pour des communications, des transformations, des victoires. Et là, cette vie d'amour, cette vie de passion avec Christ, lui, il a accompli la loi pour moi, et il a répandu son esprit dans mon cœur, cet esprit qui maintenant est capable d'écrire lui-même, mais c'est lui qui le fait. Il n'écrit plus sa loi sur des tables de pierre, comme dans Exode 31, il écrit sa loi sur des cœurs de pierre, il écrit sa loi en moi. Il me change, il me transforme. Pour faire écho à la prophétie d'Ézéchiel, je ferai en sorte que vous observiez mes commandements, parce que c'est son œuvre, en moi, par une communion. Plus tard, la semaine prochaine, on parlera aussi de la nécessité d'une conception totale. Mais cette vie, elle est fondée sur ses mérites, pas sur les mérites. Elle est fondée sur ce qu'il a fait, pas sur ce que j'ai fait ou pas fait. Elle est fondée sur lui, sur ses mérites et sur ses efforts. Ce qui amènera la semaine prochaine à la logique d'une consécration totale et d'une relation soignée, profonde avec l'esprit de vie, pour connaître la loi de l'esprit de vie qui m'a affranchi du péché et de la mort. Alors bien sûr, il ne va pas rester attentiste, il ne va pas rester passif, il ne va pas rester oisif à attendre, pardonnez-moi, que tout nous tombe tout cuit dans le bec comme un rencontre un dimanche matin. Oui, on a une part, on a une responsabilité, on a une détermination, une volonté d'aller chercher ce que Jésus nous a acquis, à aller chercher à devenir les personnes que nous sommes déjà en lui, à s'emparer de ce que nous sommes déjà en Christ. Mais avant ça, avant d'aller chercher ce que je suis en Christ, avant d'aller chercher ce qui m'appartient, avant de voir par application pratique, tout ce que Jésus est, devenir réalité concrète dans mon quotidien, dans ma vie, dans mon caractère, dans tout cela, ben il faut peut-être déjà que je comprenne vraiment qui je suis en Christ. Je ne vais pas aller chercher quelque chose dont je n'ai pas conscience. Il faut absolument le saisir par la foi. Ce sont de grandes vérités, des profondes convictions. Et ça, c'est le troisième temps fort de cette épître. Libéré de la puissance du péché. Un, justifié par la foi. Deux, libéré de la loi. Trois, libéré de la puissance du péché, puisque libéré de la loi, libéré du péché. Et je vais considérer quelques instants cette vérité avec vous, frères et sœurs. Je pense réellement que elle n'est pas claire pour tout le monde, pas évidente pour tous, à cause de ce décalage, je dirais même de cette tension qui existe entre ce que la Bible dit et la réalité de notre quotidien et parfois de nos échecs successifs en matière de sanctification. Ce décalage entre ce que je suis en Christ et encore mes besoins, mes si nombreux besoins de progrès, toutes les victoires que je n'ai pas encore vues concrètement dans ma vie. Pourtant, c'est vital de les saisir par la foi, parce que ça commence par la foi. Et une fois qu'on les a bien considérés, qu'on a été très attentif, ça va nous éviter, on va déjà dans un premier temps, on va arrêter de prononcer des paroles anti-bibliques. Anti ne signifie pas contre la Bible. Anti signifie à la place de. Antichrist, c'est celui qui va venir comme usurpateur à la place de Christ. Des paroles anti-bibliques sont les paroles que nous prononçons, nous trompons nous-mêmes par des faux raisonnements, au lieu simplement de confesser ce que la parole de Dieu dit par la foi. Vous savez, tous ces moments où on dit... Ah, je suis désolé, c'est plus fort que moi.
Non.
Faux. C'est pas ce que Paul dit. Et c'est Paul qui a raison, ce n'est pas toi. Ah, je suis désolé, ma mère était comme ça. Ah, je suis désolé, mon père m'a élevé comme ça. Ah, je suis désolé, de toute façon, je suis comme ça. Puis je suis désolé, c'est mon caractère, il faut me prendre comme je suis. Ah, mais nous, on prend tout le monde comme il est. C'est bon, la sanctification, on peut aimer tout le monde tel qu'il est. Moi, je suis désolé, mon frère, ma sœur. Il faut peut-être qu'on avance, peut-être qu'on change aussi. Il faut que tu progresses aussi pour avancer. Même si je suis prêt à t'aimer tel que tu es, jusqu'à ce que Jésus revienne, ce n'est pas un problème. Il y a une qualité de vie derrière qui te manque. Et puis tu vis ensuite dans des jours de culpabilité. Alors, les trucs du genre, « Ah, vous savez, c'est plus fort que moi. » Non, non, ce n'est pas plus fort que toi. La Bible ne dit pas ça. Puis une fois qu'on se dit, « Ah, c'est plus fort que moi. Ah, je suis comme ça. » Ah, puis Seigneur, tu vois, putain, il faut l'évangélique invisible là. Ah, Seigneur, putain, je ne suis pas digne. Hé, je suis désolé. Je suis digne. Pas par moi-même. Il m'a rendu digne. Prenez la forme, pasteur. Vous êtes rendu digne. Si vous n'avez pas à dire je suis digne, parce que vous avez peur que ça fasse prétentieux, j'ai été rendu digne. Je suis libre du péché. Je peux tout par celui qui me fortifie. Ah Seigneur, je suis aussi Seigneur. Ah Seigneur, j'arrive de nouveau pas. Ah Seigneur, encore pardon. Ah Seigneur, j'arrive pas si. Ah Seigneur, c'est plus fort que moi. Le Seigneur me dit, non, ce n'est pas plus fort que toi. C'est juste que tu n'as pas encore saisi. Tu n'as pas encore compris les réalités spirituelles dans lesquelles j'essaie de t'entraîner et que je voudrais voir se développer en toi. Alors, oui, pourtant, Paul est clair, il me dit, vous avez été libérés, c'est fait. Pourtant, j'observe ce décalage entre ce que la Bible dit et mes chutes, et ça me paraît des fois tellement dur. Alors, donc, je suis peut-être pas libre. Si tu es libre, un chrétien né de nouveau, c'est à partir du moment où il s'est authentiquement repenti de ses péchés, pardon si ce n'était pas du flanc, si ce n'était pas une adhésion évangélique, si réellement il s'est repenti, qu'il a mis sa foi en action, qu'il a confessé Jésus, si effectivement, par la foi, l'Esprit est venu suite à cette conversion, il est né de nouveau, il est libre du péché. Un chrétien n'est pas obligé de pécher. Il pêche par ignorance, il pêche par négligence, il pêche parce qu'il y a des tas de trucs qu'il n'a pas compris, il pêche parce qu'il n'a pas fixé les priorités où il fallait. Un chrétien n'est pas obligé de pécher. Vous ne dites pas Amen, ça ne me dérange pas, c'est normal. Les premières fois, ça fait ça. puisque je suis mort à la loi, puisque je suis mort et ressuscité avec Christ, 6-14, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous parce que vous êtes sous la grâce. 6-18, ayant été affranchi du péché. 6-22, étant affranchi du péché, vous étant parfaitement soumis à Christ. Ça, il va falloir en parler, la soumission à Christ. On verra aussi la semaine prochaine, tu retrouves ta liberté, hein, tu demandes pardon au Seigneur, tu dis, tu demandes au Seigneur de t'accorder cette délivrance, cette liberté par la puissance de son œuvre à la croix. Le Seigneur, il te l'accorde instantanément, il te l'accorde tout de suite. Mais ensuite, il faut faire des choix stratégiques. Tu as juste retrouvé la liberté de choix, pas la liberté de faire n'importe quoi et de rester oisif. Je retrouve la liberté. Mais l'apôtre Paul, je le montrerai la semaine prochaine, est clair, je résume. Tu es libre. Mais n'oublie pas que ce à quoi tu te soumets, c'est ce qui va prendre autorité sur ta vie. C'est pour ça qu'il dit, vous avez été affranchis du péché pour être esclaves du Christ. C'est-à-dire littéralement, vraiment vous soumettre volontairement à lui. J'essaie, l'épître aux Romains, c'est technique. Mais une fois qu'on l'a comprise, je vous garantis que c'est... 8.2. La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est fait, c'est la réalité spirituelle. Je suis bien-aimé, nous sommes déjà parfaitement saints en Christ. Ça va mieux. Je vous ai remis ici simplement les temps forts de ce que nous avons lu, de ce que je viens de reciter. Je ne reviens pas dessus. L'apôtre Paul va mettre en évidence le principe complémentaire, le principe qu'il faut assimiler. Vous allez vous dire, décidément, il est vraiment fou, pasteur. Je vous explique. Il y a des principes à assimiler, bienvenue. Le principe qu'il faut assimiler, c'est ce que j'appelle le débat pas encore. Ou le meilleur dans le pire. Le déjà pas encore, c'est cette tension entre ce que la Bible déclare, que je suis déjà en Christ. Je le suis. Je suis libre. Je suis saint, je suis rendu, on est d'accord, devenu digne, je suis pur, je suis fort, je suis. Et vous faites attention dans les épîtres, le nombre de fois où Paul dit « en lui vous êtes, en lui vous avez, en lui, en lui, en lui, il a, vous avez, vous étiez, vous n'êtes plus, en lui, vous êtes, etc., etc. » Je ne sais plus si ce sont peut-être les réformateurs qui ont appelé l'épître aux Romains la cathédrale de la foi. Parce que c'est vrai que c'est un problème. Mais c'est un édifice spirituel. Et si on est vraiment rentré dedans, et c'est fort, c'est solide, c'est la cathédrale de la foi, parce que c'est immense, c'est grand, c'est beau, c'est magnifique, ils ont appelé ça la cathédrale de la foi. Et ensuite, on parlera aussi un peu des Galates, parce qu'il faut absolument que les chrétiens nés de nouveau apprennent à marcher par l'esprit. Et puis ensuite, plus tard, on parlera des Éphésiens, que d'autres réformateurs ont appelé la chambre du trésor. Parce que dans l'épître aux Éphésiens, en lui, dans le Père, vous êtes, vous avez, dans le Christ, vous êtes, vous avez, dans l'Esprit, vous êtes, vous avez, vous êtes béni de toute sorte de bénédiction en Christ, dans le Père, dans l'Esprit. Vous avez, vous êtes. Et c'est tout ce que nous avons déjà, pas ce que nous vivrons seulement dans le ciel, c'est ce que nous avons maintenant en lui, vous êtes assis maintenant en Christ, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. C'est notre position spirituelle, bien-aimée. Je sais, c'est pas évident parce que ce sont des réalités spirituelles qui vont largement à l'encontre de ce que nos yeux voient et de ce que nos corps nous tirent dans l'autre sens et de ce que nos bouches veulent confesser. Mais pourtant, c'est ce que nous sommes déjà parfaitement en esprit en Christ. C'est en opposition, malheureusement, avec la réalité pratique de notre chair qui a été corrompue par le péché et qui a besoin, et c'est ça le encore, il a besoin parce qu'elle est faible, parce qu'elle est impuissante, parce qu'elle est incapable, elle a besoin, ce corps a besoin d'être totalement offert dans une consécration totale, elle a besoin d'apprendre à mourir à elle-même à cause des dérèglements successifs qu'elle a connus pendant des années dans le péché. En d'autres termes, il y a en lui cette tension entre le déjà et pas encore. Mais plus je suis focalisé sur le déjà, plus j'y crois, plus je suis convaincu du potentiel que j'ai en Christ, et bien plus je vais aller vers ce potentiel et je n'ai pas besoin de 15 ans, 20 ans, 25 ans à tourner dans les mêmes limites, les mêmes chutes, les mêmes échecs, le même caractère, la même colère, le même ceci, les mêmes failles, les mêmes... Je n'ai pas besoin. Parce que si j'ai compris, je vais m'investir à 200% dans ce genre de vie et je vais aller chercher ce qui m'appartient et je vais devenir, je vais vous dire un truc encore dingue, je vais devenir ce que je suis déjà. C'est ça la sanctification. Et la sanctification, ça peut aller très vite, dans un cœur, dans un couple, dans une église. Je marche, je deviens ce que je suis déjà. Je deviens ici-bas, dans une réalité. Alors oui, il y a cette tension entre le déjà, pas encore, c'est clair dans les écrits de Paul, à cause de cette chair corrompue par le péché, impuissant, incapable. En d'autres termes, le jour où je me suis converti authentiquement et j'ai donné ma vie à Jésus, son esprit est venu en moi, c'est mes péchés qui ont été pardonnés. Et ce jour-là, j'ai reçu le meilleur dans le livre. Mon esprit est né de nouveau. Mon esprit a été régénéré. Il dit, vous avez été régénéré par la semence vivante et permanente, incorruptible de la parole, l'esprit, la parole, l'esprit. Mon esprit qui était mort, qui était coupé des choses de Dieu, est ressuscité. C'est ça la régénération. J'ai été ressuscité, régénéré. Mon esprit est né, il était coupé, il est né aux choses de Dieu. C'est la nouvelle naissance. Et c'est mon esprit qui est parmi vous. Et en esprit, tout est fantastique. Mais mon âme, elle a connu les dérèglements du péché. Mon corps, il a connu les dérèglements du péché. Mon âme, mon corps ont goûté à la jouissance du péché, ont goûté à la jouissance de la convoitise. Mon âme, elle a goûté à la jouissance de la critique, de la médisance, du... Mais mon âme, corrompue par le péché, elle se délecte de ces choses. Mon esprit les réprouve au plus haut point, mais mon âme, elle s'en est délectée pendant longtemps. Il faut que mon âme et mon corps, qui lui aussi a eu ses dérèglements dans ses vices, ses passions, ses addictions, il faut que, c'est ça la marche par l'esprit dont je vous parlerai, il faut que mon esprit né de nouveau régénéré, en communion avec le Saint-Esprit de Dieu, domine sur l'âme et sur le corps, qui doivent passer en plus qu'en second plan, qui doivent mourir, qui doivent disparaître. C'est la mort à soi, c'est la marche par l'esprit. Et Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Je suis mort au péché, je suis mort au monde, le monde est mort pour moi, je suis mort à la loi, je suis mort à ces choses, on peut me regarder comme les balayures du monde, ça ne m'affecte plus, je suis mort à ces choses, je suis mort au monde est mort pour moi, le péché, je suis mort au péché, j'ai été crucifié avec Christ, et si je suis dans cette chair, si vous voyez la même tête, le même gars, le même bonhomme, à l'intérieur, c'est pas moi qui vis, c'est pas mon âme qui dicte, c'est pas mon corps qui dicte, c'est Christ qui m'habite en moi. C'est ça, cette réalité où j'ai reçu le meilleur, mais je l'ai reçu dans le pire. Et mon corps, c'est écrit à Corinthiens 15. Mon corps, alors je vais encore employer un ou deux mots compliqués. Je ne suis pas encore, vous non plus. Nous ne sommes pas encore arrivés à la complétude du salut. Nous avons reçu le meilleur dans le pire étant ce corps, et ce corps retournera à la poussière. 1 Corinthiens 15, il ne méritera pas l'incorruptibilité. 1 Thessaloniciens 4, c'est seulement quand les morts en Christ ressuscitent premièrement, les vivants sont transformés tous ensemble à ce moment-là, au moment de l'avènement en gloire de Jésus, reçoivent un nouveau corps. Et là, à ce moment-là, il y a le salut du corps. Mais en attendant, j'ai reçu le meilleur dans le pire. La tension, la lutte, mais déjà pas encore, le meilleur dans le pire. Seigneur, t'as fait exprès, c'est quoi? C'est compliqué? Oui, il a. C'est voulu, c'est exprès. Galates 5, 17. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Parce que ça m'oblige, de la même façon que la loi qui me condamnait, qui m'accusait toujours, et qui ne me changeait pas, qui me maintenait dans un cycle destructeur, perpétuel, de religiosité et de découragement, la loi était un pédagogue pour m'emmener à Christ. Et bien de la même façon, l'impuissance de ma nature charnelle, ce corps, cette chair, ce pire qui est toujours là, m'amène aussi à ne pas faire ce que je veux, mais m'amène à me soumettre à Christ et à revenir sans cesse, pas une fois seulement, toujours, sans cesse, je reviens à Christ et je me soumets à lui et je prends soin de lui et je gère ma relation, la communion avec lui dans une offrande de consécration totale en disant il faut que tu croisses et je dois diminuer. Et le plus vite sera mieux. Et c'est pas obligé de prendre 25 ans. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez pour être sans cesse ramené à Christ et à une dimension de consécration. J'ai rien d'autre sur le PowerPoint, je vais pas encore un tout petit peu ça. En conclusion, il faut bien comprendre que c'est vrai ça qu'il y a cette tension aussi. Le corps a des souvenirs. Déjà, mon âme a des souvenirs de la convoitise, de la jouissance du péché. Mon corps a des souvenirs. Et vous savez, le corps, plus vous lui en donnez, plus il en veut. Le corps, il a besoin de sa dose. Il lui faut sa dose d'impureté. La chair n'est destinée qu'à une chose, mourir. La chair ne produit jamais rien. La chair ne peut même pas être sanctifiée. La sanctification de la chair, ça n'existe même pas dans l'Écriture. La chair est destinée à une seule chose, mourir, mourir à soi, mourir à moi-même. Reculer, reculer, reculer jusqu'à mourir définitivement, à laisser toute la place à l'Esprit de Dieu dans ma vie. Et le corps, plus je vais lui en donner, plus il va réclamer sa dose de souillure, d'impureté, de péché. Il va réclamer ses dérèglements, il va essayer de dicter sa loi. D'où le déjà pas encore, d'où les tensions, d'où le meilleur dans le pire, le corps va essayer de... Et moins je vais lui en donner, plus je vais laisser de place au Saint-Esprit, plus il va mourir, plus il va s'affaiblir. Vous savez, si vos corps, vous ne nourrissiez plus physiquement, ben, ils vont perdre des forces. D'accord, c'est logique. Jusqu'au moment où un jour, il est fort à le voir. Mais dans le domaine spirituel, c'est bizarre. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, puisque vous êtes une nouvelle, vous avez une vie nouvelle aux Corinthiens, vous êtes une patte nouvelle, et bien faites disparaître les devenants. Puisque vous avez une vie nouvelle, Colossiens 3, et bien affectionnez-vous aux choses d'en haut. Arrêtez de vous affectionner à celles qui sont sur la terre, et ainsi de suite. Et ils montrent toujours ce que nous sommes déjà parfaitement en Christ, et ensuite notre part concrète pour que ce déjà en Christ prenne toute la dimension en moi. Ah, c'est une pratique. Mais ça, de la part de Dieu, c'est sa volonté, c'est pédagogie. Ça m'oblige à toujours revenir à Christ, à toujours m'appuyer sur lui, à toujours soigner ma communion avec le Saint-Esprit, à veiller à ce que mon offrande, à ce que ma vie reste totalement et en permanence sur l'autel. On verra la semaine prochaine, Romains 12, le sacrifice vivant. Un jour, un pasteur disait, je ne sais plus qui, mais j'ai trouvé ça tellement chouette. Il y a un comparatif entre l'Ancien et le Nouveau Testament, la première et la seconde alliance. Puis il me disait, mais c'est vrai que quand il y avait une offrande totale sur l'autel, Le sacrifice était là, tel que Dieu le voulait, le consolait. Le feu descendait sur l'autel. C'était l'approbation. Le sacrifice était consumé. C'était l'approbation. Le sacrifice, il restait sur l'autel parce que c'était un animal mort. Il disait aussi, voyez la difficulté du sacrifice vivant. Parce qu'il a bien du mal à rester sur l'autel. Donc ça ne peut pas marcher. Consécration permanente, consécration totale, offrande de soi. Je m'offre à lui, je reste sur l'autel, je puise dans sa vie, dans ses ressources, je m'appuie sur lui. Je vis cette mort à moi-même, cette consécration totale. Je marche par l'esprit et je ne fais pas d'effort. Je suis métamorphosé. Je suis miraculeusement transformé. Comme de toute façon, un sarment ne fait aucun effort pour que surgisse le fruit. Le rôle du sarment, c'est juste de faire attention à ce qui reste bien greffé. C'est ça, la sève passe et le fruit. Miraculeux est là, évident sous nos yeux, preuve qu'il y a une vie surnaturelle à l'intérieur. L'ego, le corps, les désirs, les dérèglements de l'âme, de la nature charnelle du corps sont appelés à disparaître pour être sous le contrôle total de la vie du Saint-Esprit. Alors oui, évidemment, cette tension, elle est normale. Ce tiraillement est voulu par Dieu. J'ai besoin de comprendre tout ce que Jésus a fait de moi. J'ai besoin de comprendre qui je suis en Christ. En lui, je suis déjà parfaitement saint. En lui, je suis parfaitement libre. Libre de tout. Potentiellement, dans le Christ, j'ai tout. Il n'y a rien qui est plus fort que nous. En lui, je suis digne. En lui, j'ai un statut, j'ai une position, j'ai un acquis, j'ai un héritage, j'ai des bénédictions. J'ai un potentiel de vie, un boulevard de possibilités qui s'est ouvert devant moi. Depuis la nouvelle naissance, j'ai un potentiel de vie, j'ai des capacités insoupçonnées. Et c'est là qu'on a besoin non seulement de considérer ces choses, de se les approprier par la foi, parce que ça, comme pour le reste, c'est par la foi. La foi est une ferme assurance, la foi est une conviction, la foi est donc une démonstration. Si j'y crois vraiment, ben je vais m'impliquer dans ce genre de vie, je vais m'impliquer à 200% dans ce genre de vie. Et je vais y aller, et tu vas voir si tu n'auras pas de résultat. On fait un parallèle d'une image. Imaginez un pauvre homme qui soit un mendiant. Un mendiant qui n'est rien, et puis c'est ce que nous étions avant de rencontrer Jésus. Nous étions là spirituellement, mendiant aveugle comme Bartimée, assis au bord du chemin, sans avenir, sans espérance, perdu dans l'ennui de ce péché, aveugle. Et puis, forcément, on imagine très bien ce genre de vie, qui n'est absolument pas lui, notre vie dans le péché, on le sait, il n'est pas lui. Et puis un jour, à cause d'une grâce qui nous dépassera toujours et que je louerai pour l'éternité, un homme vient vers ce mendiant. Pas n'importe quel homme. Un roi vient vers ce mendiant, puis lui dit, tu sais, je voudrais vraiment que tu vives comme moi. Je ne vais pas te donner deux, trois trucs. Je voudrais que tu aies le même niveau de vie que moi. J'ai ouvert un compte dans ton nom, dans telle banque, et j'ai déposé sur ce compte 10 millions d'euros. Question. Faites attention au niveau CE2. Il y a plein de gens qui se sont déjà fait avoir, il y a plein de chrétiens qui répondent à côté de la plaque. Cet homme assis au bord de la route, faites attention. Il est riche ou il est pauvre? Il y a quelqu'un récemment qui m'a dit, non, je suis pauvre.
Non, c'est pas vrai.
J'ai mis 10 millions sur un compte à ton nom. Il est riche ou il est pauvre? C'est sûr. Il est digne ou il n'est pas digne? Je suis saint ou je ne suis pas saint? Il est riche. Pourtant, c'est ça qui me gêne, c'est ça qui me dérange dans la révélation, dans la puissance de la grâce. J'ai rien fait pour mériter ça. Il a un petit peu. Non, parce que la grâce, c'est un cadeau et Dieu t'interdit de mettre quoi que ce soit de toi. Sinon, tu corromps la pureté de la grâce. C'est plus une grâce. S'il faut imputer le moindre de tes mérites. Donc, tu n'as rien fait pour mériter, ce mendiant n'a rien fait pour mériter, pour gagner cet argent, mais ça ne va pas lui tomber tout cuit dans le bec. Le roi lui a dit, j'ai ouvert un compte à ton nom. Sur ce compte, il y a 10 millions d'euros. Il ne lui a pas mis l'argent dans un sac à ses pieds. Ce n'est pas tomber tout cuit. Parce que le roi ne veut pas que le mendiant devienne un oisif attentiste paresseux, stérile. Il veut absolument que ce mendiant se bouge et qu'il aille s'emparer de ce qu'il lui a offert pour qu'il ensuite, pas par lui-même, mais grâce à ce qui est sur son compte, cela fut imputé à Abraham, cela lui fut compté comme justice, mis sur son compte. Tout est sur ton compte bancaire céleste, mon frère, ma soeur. Et à ce moment-là, il faut que le mendiant aille chercher, s'emparer. Et puis ensuite, sur cette base-là, ce capital, ce potentiel, il va devoir aller le chercher. Il faut en prendre possession. Il faut l'entretenir. Il faut investir. Il faut développer. Il faut commencer à vivre un mode de vie qui soit à la hauteur de cet héritage qui m'a accordé, qui m'a été accordé. Alors logiquement, si j'ai compris, et c'est ça le truc, et c'est là que le bât blesse. Si j'y crois vraiment, je me lève, j'y vais, je m'investis à 200%, rempli de joie de ce que je suis devenu, de ce que je possède en lui, grâce à lui, par lui. Voilà ce que je possède, voilà qui je suis. Il a fait de moi un héritier de Christ. Il a fait de l'Église sa reine. Le roi fait de moi un royaume de sacrificateurs. Vous êtes l'épouse, vous êtes la reine. Du roi, la reine de Jésus. J'y crois fermement, j'y vais. Vous savez ce que c'est le problème de beaucoup de frères et sœurs qui sont pleins de bonne volonté? C'est qu'ils restent assis au bord du chemin qu'ils réfléchissent. Je suis quand même pas très bien habillé. D'autres sont toujours, certains sont toujours au bord du chemin. Ils se sont contentés du pardon et du salut par la foi. Ou restent dans leur vie, il y a bien du mal à fonctionner. Le Seigneur te dit, non, mais il faut vraiment que tu saisisses le fait. Tu es responsable maintenant. Et puis d'autres, un petit peu gênés par le fait que, quand même, j'ai rien fait pour ça. Et bien, il y en a, vous savez ce qu'ils font? Ben, ils vont se trouver un boulot à l'usine. Pour essayer de gagner un petit quelque chose, s'acheter un bon costume, pour essayer d'aller sur le résultat et essayer de. Lève-toi, va chercher ce qui t'appartient. Alors je suis là avec, pardonnez-moi, dans mon usine évangélique quotidienne, avec mon bleu de travail, attelé à la tâche. Et puis il y a des tâches, il y a des tâches de cambouis. Alors quand je sors le soir, et au bout d'une semaine, au bout d'un mois, de mon lieu de travail spirituel, avec si peu de progrès, si peu de résultats, en rentrant le soir, je m'arrête chez Carrefour, j'achète du Ariel 3 en 1, et puis pour essayer de me rendre présentable. Et il me dit, je ne sache pas pourquoi je suis encore en colère, pourquoi je suis encore retombé dans le péché, pourquoi j'ai regardé ce film porno, pourquoi j'ai envie de. Pourquoi il y a toujours les mêmes limites? Pourquoi il y a toujours les mêmes tâches? Pourquoi il y a toujours les mêmes cartes? Pourquoi je n'ai pas changé de niveau de vie? Pourquoi je n'ai pas une vie à la hauteur de ce qu'il y a sur mon compte? Parce que j'ai eu du mal à y croire et je ne vais pas chercher ce qui m'appartient. Et le Seigneur veut prouver en moi cette détermination. Il veut que j'arrête de trimer. Il veut que je trouve le niveau de vie qui correspond là en lui, à ce qu'il m'a déjà acquis. La réalité, bien-aimé, c'est qu'un chrétien authentiquement repenti, converti, les nouveaux, quand on parle d'authenticité, un chrétien des nouveaux, et libre du péché. Amen. Avec ou sans vous. Pour la raison. Et avant de pouvoir le vivre dans des dimensions pratiques, il faut déjà comprendre ce que Jésus nous a acquis, ce que nous sommes en lui, et que nous sommes déjà saints, déjà parfaits, déjà totalement libres, que nous avons ce statut, cette position, les acquis, du potentiel, et j'ai besoin. Ce sera la pensée suivante de Paul. Il va vraiment falloir que je me mette. Et là, ensuite, il va commencer à développer la question de la consécration. Ce sera le quatrième grand volet de l'Épître aux Romains. 2, 3, 4, je suis dans les bras de Jésus, j'ai tout dans l'autre. Le Saint-Esprit, la loi de l'Esprit de vie me transforme. Je suis métamorphosé. Romains 12, 2. Et je vis la vie que le Seigneur a toujours voulu pour moi. Amen. Mais on verra ça la semaine prochaine. En attendant, bien aimé, croyons de tout notre cœur ce que la parole dit, ce que Jésus a fait de nous, ce qu'il a fait en faveur de chacun d'entre nous, pour aller chercher ce qu'il nous a acquis par sa grâce. Seigneur, merci.